voix nue. Cette semaine, Mathieu Conquet rencontre Bertrand Burgala. Ce soir, Sentinelle mathématique.
Bertrand Burgala, bonsoir.
Bonsoir Mathieu Conquet.
Vous êtes Bertrand Burgala, producteur, arrangeur, compositeur et chanteur, patron de label, le label Tricatel que vous avez créé en 95. Vous avez été vice-président du SNEP, c'est le principal syndicat de producteurs de musique. Vous êtes aussi l'auteur du livre Diabétiquement Vôtre qui était paru en 2015. On aura l'occasion au cours de cette semaine d'évoquer ces différentes activités. Alors, il est d'usage dans ces entretiens sur le long cours de suivre la chronologie, le parcours et d'évoquer d'abord ce qu'ont été l'enfance, la formation, les études. Mais j'aimerais commencer par le temps présent, votre rapport au temps et ce qui fait, Bertrand Burgala, que nous nous trouvons en cette fin d'année 2017 à Courbevoie, dans un immeuble en bord de Seine, un immeuble conçu par l'architecte Jean Dubuisson.
J'ai un rapport au temps qui est peut-être anachronique, c'est que j'aime beaucoup essayer de penser à, au lendemain, à ce que sera l'avenir. Parfois, une tendance un peu à me plonger dans le passé, mais peut-être une inaptitude, c'est assez fréquent, je pense, à vivre pleinement, disons, dans l'instant. Donc la première chose qui me vient à l'esprit quand on me parle du temps, c'est peut-être ça, c'est-à-dire que s'il y a un plat que j'aime bien au déjeuner, je vais avoir tendance à commencer par celui que j'aime le moins en me disant qu'après ça sera formidable. Enfin voilà.
Un mot sur l'architecte, oui. Jean Dubuisson, qui a conçu l'immeuble et l'appartement dans lequel nous nous trouvons.
C'est un immeuble en fait qui a mon âge. Il a été conçu en 1963, comme moi. Et donc ça me permet de voir un peu quand je vois l'état de certaines parties communes ou des façades, ça me permet un peu de certaines comparaisons avec le corps humain. Et c'est vrai que c'est une architecture qui était très moderne et qui l'est restée, et que je trouve très empathique, qui est faite. Peut-être, je suis pas du tout un expert en architecture, mais il me semble, quand on compare par exemple avec la Cité radieuse de Corbusier, on voit qu'il y avait une vision qui était plus totalitaire quand même chez Le Corbusier, dans laquelle le corps humain était quand même, enfin il y avait quelque chose d'extrêmement strict dans les dimensions, que je retrouve beaucoup moins chez Jean Dubuisson. Et je regrette beaucoup d'ailleurs à cet égard que ce qui est en train de se passer avec le Musée des Arts et Traditions Populaires, qui était
construit par Dubuisson,
qui était sa seule commande publique et qui vient d'être donnée au groupe LVMH et dont l'architecture va être considérablement modifiée. C'est un bien commun qui vient d'être encore une fois d'une façon que je trouve extrêmement regrettable.
Voilà, pour ceux qui veulent se figurer l'endroit où se trouve le Musée National des Arts et Traditions Populaires, c'est dans le 16e arrondissement, c'est pas très loin de la Fondation Vuitton,
oui.
Justement.
Oui, oui. Et c'était intéressant parce que c'était deux architectures qui se faisaient quasiment face. Et c'est un des derniers témoignages comme ça d'une forme d'architecture qu'on a connue, qui est en train de disparaître. Mais en même temps, voilà, je suis pas collectionneur. Je ne me sens pas passéiste au sens où je suis très heureux d'avoir connu les années 60. Même si j'avais 7 ans à la fin des années 60, les années 70, les années 80, 90, les années 2000, les années 2010 maintenant, j'aurais pas aimé naître à une autre époque. J'aurais pas aimé naître, je sais pas, au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité. Et je suis très heureux de connaître ces époques-là. Et j'ai pas envie qu'on en revienne à telle ou telle époque.
Vous avez, Bertrand Burgala, chanté la fascination pour la construction. Je pense à une chanson comme Grand Tourisme, par exemple. Des milliers de volontés ont fait cette ville unique. Des fontaines lumineuses et ronds-points cardinaux contribuent au bon standing de ce quartier nouveau. C'était des paroles de Pierre Robin.
Ouais.
Quel regard vous portez aujourd'hui, Bertrand Burgala, sur l'architecture contemporaine qui a l'air d'être moins celle des utopies?
J'ai l'impression qu'il y a quand même des choses formidables qui se font. On les voit pas toujours à côté de chez nous et c'est dommage. On voit des photos de constructions géniales, je sais pas, en Europe du Nord. Donc ça m'intéresse. C'est marrant parce que cette chanson, Très Grand Tourisme, c'est une vision poétique, je trouve, de certaines constructions, y compris de ce qu'on peut voir autour d'ici. Un côté un peu Haute-Seine dans cette chanson, architecture des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire un mélange qui peut être et parfois qui peut vraiment déconcerter. Et moi, par exemple, quelque chose comme La Défense, je trouve que c'était un très beau projet. J'ai lu récemment le livre de Laurence Cossé sur la Grande Arche, et j'ai trouvé passionnant cette aventure. Ça m'a beaucoup intéressé dans ce qu'a été la conscience à l'époque quand même des acteurs publics de leurs responsabilités et de ce qu'ils pouvaient faire avec un quartier, y compris en décidant de pas l'ordonner d'une façon complètement précise. Mais j'ai trouvé que j'ai trouvé ce livre très intéressant. Ça m'a appris beaucoup de choses. Je pense au rôle de quelqu'un comme Robert Lyon de la Caisse des Dépôts, qui a été très très positif à l'époque.
Je reste encore un temps sur l'architecture, puisque une des dernières photos qu'on peut voir de vous dans votre dernier disque paru, Bertrand Burgala, elle vous met en scène en costume devant, il m'a semblé reconnaître, les espaces Abraxas de Ricardo Bofill. Ça, c'est à Loisy-le-Grand.
Alors, vous n'êtes pas loin, c'est le même architecte, mais c'est à Montigny-le-Bretonneux, c'est-à-dire de l'autre côté, à l'ouest de Paris et non à l'est.
C'est une architecture qui relève à la fois de l'utopie, mais qui a fasciné. Il suffit de voir, par exemple, l'usage de ces architectures dans le cinéma. À chaque fois, ça a été pour montrer une sorte de futur un peu inquiétant, un peu brutal. On voyait ces architectures dans « À mort l'arbitre »,
c'est vrai,
de Jean-Pierre Mocky, dans « Brasil », de Terry Gilliam. Récemment encore, dans une grosse production américaine comme Hunger Games, qui figure un futur peu enviable aussi.
La photo dont vous parlez, on l'a faite un dimanche après-midi aux arcades du lac. Et je dois dire que peut-être que c'est plus, il faudrait que les habitants nous en parlent. Mais moi, j'ai trouvé ça quand même extrêmement dur. Et moi, j'aime le béton, je trouve que c'est magnifique. Mais là, c'est un peu un contre-exemple, c'est-à-dire que ça m'a paru quand même assez triste et peu tourné vers la personne humaine. Mais je pense que le problème ne doit pas être un problème d'architecture aujourd'hui, mais un problème, comme dans d'autres domaines, de puissance publique et de savoir. J'ai habité pendant très longtemps dans un quartier que j'aime beaucoup, les Batignolles, mais l'aménagement des Batignolles qui s'est fait depuis une douzaine d'années, il y a eu assez peu de concertation finalement avec les habitants, et on le sent, il suffit de s'y promener aujourd'hui, que c'est un lotissement de promoteurs et d'entreprises de travaux publics, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait appel à tel ou tel architecte, on n'a pas demandé à des projets intéressants et innovants de se faire, mais on a donné un lot à Bouygues, un autre lot à Eiffage, etc. Et ça en dit beaucoup. Je trouve que là-dessus, l'architecture, elle est un reflet aussi de la société dans laquelle on vit.
Bertrand Burgala, vous nous recevez dans ce qui sera votre nouvel appartement. On est en face de l'île de la Jatte, qui a été beaucoup peinte par Seurat, Monet, Van Gogh, les impressionnistes. Est-ce que vous vous placez aussi, Bertrand Burgala, dans une histoire de la musique ou une histoire des arts en France ?
Pour la musique a commencé à m'intéresser quand j'ai découvert la musique de la fin du 19e siècle, qui évidemment n'aurait pas pu exister sans ce qui existait avant. Mais c'est à partir de Debussy et de Ravel que la musique m'a vraiment passionné. Et je trouve que le siècle qu'on vient de vivre, le 20e siècle pour la musique, il me semble qu'il a très peu d'équivalent, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en 100 ans de cinéma, il y a eu moins de révolutions qu'en 100 ans de musique. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en musique me paraît absolument incroyable. Et c'est pour ça, je suis pas du tout, il me semble pas, la musique est pas terminée, on va continuer de faire des choses nouvelles, mais je trouve que c'est très difficile aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant aussi, de pas être pris au piège par l'admiration qu'on peut avoir pour tout ce qui vient d'être accompli, quel que soit le domaine, qu'on soit dans le jazz, dans la musique classique, dans la pop. Il me semble qu'il s'est passé tellement de choses que ça peut être tout à fait écrasant. Et s'il se passait moins de choses, en tout cas, ça ne me semblerait pas choquant, parce que l'accélération qu'on a connue au XXe siècle, vraiment spécifiquement en musique, me paraît absolument insensée.
Ces accélérations, elles sont dues au traumatisme de la guerre. Les deux premières guerres mondiales vont changer beaucoup la musique en Europe, en Occident. Mais le principal changement, c'est surtout l'apparition de la musique enregistrée, oui, et non plus acoustique. Vous vous situez délibérément de ce côté de la musique enregistrée, Bertrand Burgala.
Oui, c'est vrai, parce que je trouve qu'il y a une spécificité de la musique enregistrée, comme une spécificité du cinéma face au théâtre, et que ce travail de studio, pour moi, ne doit pas être juste une simple photographie du travail en concert, de la scène. Ça peut l'être dans certains cas, en particulier dans la musique classique, mais même dans la musique classique, quand même, beaucoup d'interprètes et de chefs d'orchestre ont considéré quand même le studio comme un véritable instrument, et pour moi c'est très important. Et on a vu arriver avec la crise du disque, parmi les poncifs, il y avait ce poncif qui consistait à dire le disque c'est fini, il faut faire des concerts, mais c'est comme si on avait dit le cinéma c'est terminé, il faut faire du café-théâtre ou des spectacles. Ces deux modes d'expression de la musique qui sont très différentes, et en tout cas je trouve intéressant qu'on puisse continuer à essayer de faire des recherches en studio et sur scène de faire quelque chose qui puisse être différent, qui soit pas simplement non plus une simple essayer de faire en moins bien ce qu'on a fait sur un disque.
Toujours à propos du temps présent ou en tout cas récent, Bertrand Burgala, une des dernières choses que le label Tricatel, votre label, ait publié, c'était un clip, celui de votre chanson Musées et cimetières, qui était réalisé par Benoît Forgeard, un clip tourné dans Paris, mais alors plutôt le Paris historique, qui est à la fois celui de Paris-Plage, mais aussi, on n'est pas loin de Notre-Dame, on voit la Tour Eiffel à la fin. Vous faites partie de ceux qui considèrent que Paris assiste à sa propre muséification ?
Oui, bien sûr, mais je trouve que c'est là où on voit que Benoît Forgeard est un grand réalisateur, c'est qu'il arrive à dire des choses avec une subtilité, une élégance, et sans aucune démonstration. Il arrive à suggérer des choses, et je trouve qu'il n'y a aucun mépris, c'est-à-dire que je suis très heureux, je suis très fier de ce film, parce que c'est une chanson que j'ai faite à partir d'un texte d'un très vieil ami, Yatanoël Yansané, et je trouvais son texte très poétique, et le personnage lui-même de Yatanoël est très intéressant, mais il fallait arriver à le capter d'une façon qui soit respectueuse, qui soit digne. Et c'est vrai que j'avais suggéré à Benoît que peut-être de le mettre dans le monde d'aujourd'hui, parce que c'est un personnage, c'est une personne, pas un personnage, Yatanoël Yansané, qui vit un peu hors du monde, et tout d'un coup de le mettre dans ce qu'il y a de plus vivant à Paris, c'est-à-dire cet aspect festif, un peu Paris-Plage et Quai de la Seine, ce monde un peu touristique et ses monuments. Ça aurait pu être quelque chose d'assez indécent d'une certaine façon, et je trouve ce film merveilleux, et c'est évidemment, ça m'évoque le film de Louis Malle, le Feu Follet, et aussi le clip de Sting, Englishman in New York, avec Quentin Crisp. Pour moi il y a ce côté là mais je voulais pas du tout l'idée n'est pas du tout de faire une espèce d'ironie sur le monde actuel et cet aspect de Paris, évidemment, qui est un peu, là encore, prisonnier de sa beauté, parfois.
Et je reste un instant sur cette personnalité de Yatanoël Yansané, puisque c'est lui qu'on voit dans ce clip, qui ressemble à une sorte de Buster Keaton, 19e siècle, effectivement, qui tranche beaucoup avec le Paris d'aujourd'hui. Mais qui est ce Yatanoël Yansané ? C'est vraiment une silhouette très singulière. Et si on essaie de se renseigner sur lui, on trouve peu de choses. Visiblement, il y a un site légitimiste qui le qualifie d'authentique prince d'Astrée et marquis de Forêt-Caria.
Écoutez, c'est difficile. Je ne sais pas si on peut en parler par respect. Disons que, voilà, quand on avait 20 ans, on a été très amis. On était très proches. Et c'était un garçon brillant. J'ai travaillé pour lui. On conduisait des limousines ensemble. On était chauffeurs de grandes remises. Et puis, comme ça arrive parfois, il est parti aux États-Unis. Il a travaillé avec Scott Page, qui était un musicien qui travaillait avec Pink Floyd, avec Supertramp. Et c'était un très très bon dessinateur. Il faisait des bandes dessinées super. Et il est rentré des États-Unis complètement bouleversé. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Je pense qu'il y a quelque chose qui a un rapport avec la drogue, qui a dû faire germer des choses qui étaient sous-jacentes chez lui. Donc voilà, il est parti d'une certaine façon dans un autre monde, et j'essaie de le ramener dans un monde réel. Et le monde réel, c'est parfois de lui demander des textes, de lui demander, il avait fait une pochette pour les Sheds, de faire appel à sa sensibilité qui est grande.
Bertrand Burgala, c'est difficile de parler de vous sans évoquer votre silhouette, qui est vraiment immédiatement reconnaissable, avec de grandes lunettes. Vous portez volontiers des costumes cravates, ce qui n'est pas si courant dans le rock, pour faire large. Et même quand vous portez un simple jean et un polo, c'est comme ça que je vous avais vu la dernière fois en concert, il y a quelque chose qui évoque toujours les années 70. Est-ce qu'on appartient toujours à son époque ou à plusieurs à la fois ?
La première chose, c'est qu'il y a rien d'étudié en la matière. Je pense comme beaucoup. D'abord, c'est intéressant parce que quand on fait une émission comme À Voix Nue, on se sent un peu indécent parce que l'itinéraire de chaque personne me paraît au moins aussi intéressant que le mien. Donc, je me sens très gêné. Et en tout cas, en ce qui concerne ma silhouette, voilà, il y a aucune étude. Je mets des lunettes pour voir. Je préfère plutôt grande. C'est comme ça. Mais après, ce que ça peut dire peut-être, à un moment, je me suis rendu compte que j'ai tendance à m'habiller comme je détestais les gens s'habillent quand j'étais adolescent. Et je me demande si j'ai pas tendance à m'habiller. Mon père est mort, j'avais 20 ans. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai tendance à m'habiller comme mon père. Mais j'ai lu un livre très intéressant de Serge Moati il y a quelques années, où il disait qu'on a pas seulement notre âge, mais on a aussi l'âge qu'on avait quand on a perdu notre père. Et j'ai trouvé ça très beau. Dans mon cas, c'est pas totalement impossible.
Toujours à propos de vêtements ou de mode, il vous arrive, Bertrand Burgala, avec votre label Tricatel, de vous associer à des créateurs de mode. Je crois me souvenir en 2009 d'une petite collection avec Azzaro. Il y avait un smoking avec cape et même un pyjama signé Bertrand Burgala. À quoi tiennent ce type de collaboration ?
Alors, dans le cas, ça tient au fait que je suis marié avec une créatrice de mode, Vanessa Seward. On va fêter nos 10 ans de mariage, que j'admire son travail. Je pense que si elle était agricultrice, on ferait pas forcément une collection de tomates ensemble, mais enfin, c'est une façon de faire des choses ensemble. Après, les collaborations... Moi, j'ai toujours lutté contre le créateur aussi dans sa tour d'ivoire qui va faire des choses un peu hors du monde. Et le fait d'être confronté parfois à des commandes, ça peut être dans la mode, mais si ça pouvait être avec des industries beaucoup plus terre à terre d'une certaine façon, ça serait tout aussi intéressant. Et moi, je me souviens que les futuristes, par exemple, je crois que c'était Desperaux qui était fasciné par Campari. Je trouve que ces confrontations, elles peuvent être très intéressantes et très au-delà de l'aspect alimentaire parfois que ça peut représenter, qui dans mon cas d'ailleurs n'est pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on a on a finalement très peu de musique qui ont été mises sur des publicités, sur des choses comme ça.
Vous voulez dire en ce qui concerne Tricatel ?
Oui, en ce qui concerne le label. Oui, pardon.
Vous parliez de la collaboration de Fortunato Depero, c'est un futuriste italien, oui. Avec la marque Campari. Quelle place tient le mot que vous citez dans une publication récente, le mot d'Akio Morita, qui était le fondateur de Sony? Bah, je vous laisse le dire.
Je crois qu'il avait dit « nous faisons ce que les autres ne font pas ». C'était à la grande époque de Sony. Et ça m'a intéressé parce que je crois que c'est quelque chose qui a cheminé en moi. Je dis pas du tout qu'avec le label c'est ce qu'on fait, mais c'est peut-être ce qu'on essaye de faire, non pas en essayant de se démarquer systématiquement des tendances du moment ou de ce qui se fait, mais parce qu'il me semble que la fonction d'un label comme le mien, qui est très artisanal, il est de proposer des choses qui autrement verraient plus difficilement le jour. Et donc pour moi c'est très important qu'on puisse proposer des musiques qui puissent compléter ce qui existe déjà. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire.
Toujours à propos de temps présent, votre collaboration entre le label Tricatel et la créatrice de mode Vanessa Seward, qui est aussi votre compagne. Vanessa Seward, pour la situer, elle avait pris la succession de Laurie Sazzaro, maison qu'il avait fondée, c'était vers le début des années 2000. Et depuis, elle a créé sa propre marque. Qu'est-ce qui est moteur dans une collaboration avec quelqu'un qui déjà partage votre vie? Parce qu'on se demande toujours, à l'extérieur, on se dit que le travail pourrait mettre en péril ce que vous partagez déjà.
Non, ça n'est pas le cas. Et puis, c'est des collaborations très ponctuelles. Mais ce qui est certain, c'est que quand tous les deux, on a une activité, disons, qui est de création, il y a à la fois une émulation... et il y a un dialogue quand même qui est très intéressant. Donc on parle beaucoup, chacun parle à l'autre de ce qu'il fait. Et c'est ça qui est intéressant.
Bertrand Burgala, vous vous installez dans une nouvelle maison dans laquelle vous nous recevez ici. Vous venez de fêter il y a quelque temps les 20 ans de votre label. Vous êtes père depuis quelques années. Est-ce que il y a des instants où vous dites que vous avez réussi?
Non, pas du tout. J'ai jamais pensé comme ça, mais je me dis parfois, en revanche, que peut-être je me rends pas compte que j'ai la chance d'avoir quand même beaucoup des choses qui m'arrivent aujourd'hui, c'est des choses dont j'ai rêvé. J'ai rêvé de faire de la musique, j'ai rêvé de faire un label, de vivre avec quelqu'un que j'aime, d'avoir. Donc c'est quand même des choses. Et il me semble que parfois la difficulté, c'est que beaucoup de choses qu'on peut dans l'existence, qu'on peut souhaiter, si on les souhaite réellement, souvent elles peuvent se produire. Le problème, c'est que souvent elles se produisent pas exactement, elles se produisent bien après qu'on en ait rêvé. Et donc on s'en rend plus compte à ce moment-là. Mais donc voilà, j'ai eu l'impression longtemps d'être un malchanceux, mais finalement je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance.
Toujours à propos du temps, il est une question qu'on pose traditionnellement à presque tous les musiciens, c'est quelles sont vos références? Dans quelle histoire vous vous inscrivez finalement? Quelle importance elles ont pour vous, vos références, Bertrand Burgala, puis vous nous direz lesquelles elles sont, et surtout à quoi ça sert d'avoir ces références?
Les références, c'est ce qui donne le goût de la musique. Et moi je suis d'une famille où mon père n'était pas du tout musicien, mais ma mère, et j'en ai très peu parlé avec elle de quand elle était en vie, mais elle avait 3 premiers prix de conservatoire, elle a créé des œuvres à l'opéra, enfin elle était soprano. Elle m'a mis au piano quand j'avais 6 ans, mais ça m'intéressait peu, et ça a vraiment commencé à m'intéresser à partir de l'âge de 10 ans. Et donc il y a eu une succession d'admiration, d'écoute qui m'ont vraiment donné envie de faire de la musique et où je me rendais compte que la musique me permettait d'exprimer, de ressentir des choses, ne serait-ce qu'en l'écoutant, que me permettait moins la vision d'un film ou la lecture. Et donc tout d'un coup il y a eu quelque chose d'assez viscéral autour de la musique, et ces influences là qui sont successives, donc qui ont il y a 45 ans comme ça d'engouement, d'admiration successive. En général, les choses que j'ai aimées à un moment, je les aime toujours, mais j'y réécoute assez peu. En général, souvent c'est des disques que j'ai tellement écoutés que je m'en souviens très bien finalement.
Bertrand Burgala, il y a une erreur qui est souvent faite à votre propos, c'est de qualifier ce que vous faites de easy listening. D'ailleurs, vous avez souvent répondu avec humour que vous faisiez plutôt du difficult listening. Ouais. Surtout, il y a rien de régressif dans ce que vous faites.
Eh ben, je vous remercie parce que je pense que dès que j'ai pu aller dans un studio d'enregistrement, une grande partie de mon énergie, elle tourne autour du fait que j'essaie quand même de faire quelque chose qui ne puisse pas avoir été fait exactement de la même manière auparavant. Et pour moi, ça passe justement aussi par des exercices d'admiration et par le fait de ne jamais masquer ces influences, ces admirations, parce que il me semble que c'est le seul moyen de s'en affranchir, de s'en délivrer. Et s'il y a une chose que je reproche à l'époque actuelle, c'est justement d'être régressive. dans tous les domaines, dans le domaine du design, de l'architecture, de l'art contemporain. On est dans une période extrêmement régressive, mais où en plus, généralement, elle est d'autant plus régressive que ses admirations et ses influences ne sont jamais évoquées directement. On cite ce qu'il est de bon ton de citer tel ou tel artiste. Mais les vraies influences des artistes, elles sont rarement évoquées. Et c'est dommage pour eux parce que du coup, on est prisonnier de cette espèce de copie un peu servile. Et je trouve que voilà, la première étape pour se délivrer du poids comme ça du passé, c'est d'abord quand même de l'exprimer, d'exprimer sa reconnaissance envers ceux qui nous ont précédés.
Bertrand Burgala, le rapport au temps, il est encore central, évidemment, dans la musique, hein, sans tempo ni durée, pas de musique. Il est central pour l'homme, hein, puisque ce qui nous définit même, c'est le fait de savoir que nous avons une fin. Et ce rapport au temps, il est encore plus vif pour une personne diabétique, insulinodépendante, ce qui est votre cas, une personne qui doit du coup surveiller très régulièrement sa glycémie. Est-ce que le plaisir de la musique, c'est aussi pour vous une façon de dilater le temps et de l'abolir ?
C'est tout à fait exact. C'est vrai que le diabète a longtemps changé ma perception du temps, parce que je suis devenu diabétique à l'âge de 11 ans et à une époque où à la fois, d'ailleurs comme malheureusement aujourd'hui encore, le diabète insulino-dépendant était à la fois les difficultés des diabétiques étaient minorées, on leur disait ça se traite très bien maintenant. Et en même temps, avec une menace de sanctions permanentes et un côté punitif, une pédagogie noire qui sous-entendait que si on n'était pas content, c'était qu'on s'y était mal pris, qu'on se traitait mal, qu'on se soignait mal, avec donc toute cette condescendance. Et donc, il y avait tout le temps la menace de punition. Si tu te traites mal, on va te couper les jambes, tu vas mourir. Et donc, à l'adolescence en particulier, c'est quelque chose qui génère déjà l'adolescence qui est transgressive. Je pense qu'un jeune diabétique peut avoir des attitudes encore plus suicidaires d'une certaine façon. Et c'est vrai que la musique, c'était une façon pour moi d'échapper aussi à ce genre de choses, et en particulier sur l'enregistrement. Parce que je me bats beaucoup aujourd'hui justement pour le diabète, pour qu'on change un certain nombre de mauvais comportements vis-à-vis des diabétiques. Et un diabétique insulino-dépendant qui travaille dans le monde, disons normal, et qui est pas non plus protégé dans une grande administration, mais qui travaille, je sais pas moi, dans un supermarché, dans la vente, c'est très compliqué de s'arrêter pour mesurer sa glycémie, de faire une piqûre, etc. Et quand on est dans un studio d'enregistrement, sauf si on a une séance d'orchestre où là tout est chronométré à la seconde, il y a une pause au bout d'une heure et demie, etc. C'est quand même le studio d'enregistrement, c'est une cabine qui est complètement isolée du monde, où on peut faire les choses à son rythme en général.
On en restera là pour aujourd'hui.
Merci.
Merci Bertrand Burgala. À demain.
Merci, à demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Mathieu Conquet avec Bertrand Burgala. À voix nue, réalisation Thomas Beau, prise de son Sandrine Malon, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.